OK, on va commencer, on va continuer notre série sur glorifier Dieu dans votre corps. Ce soir, on va faire la deuxième partie de ce qu'on avait commencé la semaine dernière, la sexualité, son origine, son encadrement et ses dangers. Donc, on avait commencé à parler un petit peu des différents problèmes qu'on vit comme société où tout est hyper sexualisé et où on cherche les médias et on cherche de plus en plus à banaliser des péchés que la Bible déclare comme étant des abominations devant Dieu. Alors, bien entendu, il y en a toutes sortes. L'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, les transgenres, les viols, la fornication, l'adultère, la pornographie, la pédophilie, la bestialité, le sadomasochisme, et j'en passe. À quelque part, on voit qu'on est rendu vraiment dans une société de plus en plus corrompue et qui cherche, à se corrompre encore davantage. Alors, ce qu'on avait voulu faire la semaine dernière, c'était de se rappeler que la sexualité est un don de Dieu qui nous est donné. On avait vu dans Genèse que c'est l'Éternel qui a créé l'homme et la femme et qui a voulu qu'ils se marient, qu'ils croissent et qu'ils multiplient. Et on avait vu aussi que le Seigneur lui-même, dans Genèse 2, avait dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, on voit que c'est l'origine de la sexualité, c'est bon. C'est pas quelque chose qui a été apporté par le diable, c'est quelque chose qui a été donné par Dieu lui-même à l'humanité. On avait vu dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 4, « Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien n'est à rejeter quand on en use avec action de grâce. » On avait vu que le deuxième point, on fait une révision très rapide, le deuxième point, son encadrement. Autrement dit, Dieu a voulu que la sexualité s'exprime à l'intérieur de la vie de couple, dans le mariage, dans l'institution bénie du mariage. Et on avait vu que quand les hommes sont laissés à eux-mêmes, qu'ils s'éloignent de Dieu, automatiquement, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils tombent dans l'idolâtrie. Et l'idolâtrie amène inévitablement que, comme ça dit dans Genèse, dans Romains 1, verset 22, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Et ce verset 24 est intéressant parce que suite... Quand l'être humain tombe tôt dans l'idolâtrie, puis toutes ces formes de péché-là qu'on a nommées tantôt, c'est toutes des formes d'idolâtrie. Et quand l'être humain tombe tôt dans l'idolâtrie, Dieu dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité du Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes, abandonnés à l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur également. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Alors, on voit comment la création de la sexualité par l'homme, c'est quelque chose de digne, quelque chose de noble, quelque chose de sacré, et comment l'homme l'a complètement dénaturé en des choses complètement... Alors, on a vu aussi que c'était pas... Non seulement il l'a encadré par le mariage, mais il l'a encadré encore plus rigidement, si tu veux, par le septième et le dixième commandement de Dieu, dans Exode 20, versets 14 et 17. Verset 14, on a le septième commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère. » Et on a dans le dixième, dans le verset 17, ça dit « Tu ne convoiteras point la femme, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Et on avait vu dans Matthieu 19 que Jésus lui-même rappelle qu'au début, il n'était pas ainsi quand les pharisiens l'interroge sur le divorce, et il rappelle que l'institution au début était, c'est l'homme qui l'a corrompu. Alors, il rappelle tout ça. On avait vu, on était rendu au troisième point, c'est là qu'on était rendu la semaine dernière, donc les dangers, les différents dangers. Parce que dans 1 Corinthiens 6, on avait vu que la Bible nous dit de fuir la fornication. Parce que quelques péchés qu'un homme commette, c'est hors de son corps, mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. On ne fait pas de notre corps ce qu'on veut parce qu'il ne nous appartient pas, tout simplement. Alors, on avait vu aussi Apocalypse 9, versets 20-21, qui nous disent que quand Dieu va envoyer tous ses jugements, à un moment donné, les hommes sont tellement enracinés et endurcis dans leur péché qu'ils ne se repentiront pas malgré les jugements que le Seigneur va envoyer. On relit Apocalypse 9, verset 20-21, on était rendu là. « Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point de leurs œuvres, des œuvres de leurs mains, pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs rapines. » C'est intéressant parce que le verset 21 parle de impudicité, donc ça c'est relié à ce qu'on parle ce soir, mais enchantement, dans le grec, c'est pharmakia, c'est un mot qui veut dire les drogues. Et on parlait tantôt, alors les hommes ne se repentiront pas malgré les jugements que le Seigneur va envoyer, qui vont être de plus en plus sévères, ils ne se repentiront pas, ni de leur meurtre, ni de leurs impudicités, ni de leur drogue, ni de leur rapine. Les rapines, c'est des vols, de la malhonnêteté. Autrement dit, ça nous donne-tu une idée, même si Dieu envoie toute une série de jugements les plus sévères les uns que les autres, ils ne se repentiront point. Ça démontre qu'à quel point le cœur est corrompu et le cœur est enraciné, non seulement enraciné dans le péché, mais il aime son péché au point que même les pires des jugements ne le détourneront pas de son péché. Ce qu'on va regarder ce soir, c'est ce qu'on t'a rendu, 7 passages des Écritures qui nous servent d'avertissement concernant tout ce qui est dans le domaine du sexuel. Dans Matthieu 5, versets 27 à 30, là ici, c'est Jésus lui-même qui dit ça. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Bien sûr, ici, il fait référence aux 10 commandements. Verset 28, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, on voit que verset 29, là il nous dit comment on se doit de réagir quand on se rend compte qu'on est porté à l'adultère même dans nos pensées. Il nous dit, alors dans le verset 29, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Bien entendu, la géhenne, c'est l'enfer. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Alors, bien entendu, se repentir sincèrement implique toujours des efforts, implique toujours aussi des actions de nature très drastique. Quand le Seigneur, bien sûr, il n'est pas en train de te dire, prends-toi un œil et arrache-le. Mais ce qu'il veut dire, c'est de prendre des actions qui sont d'une nature tellement à couper le lien avec ton péché que ça ressemble comme si tu t'arracherais un œil. Ou une main qui dit, coupe-la. Parce qu'il dit, vaut mieux que tu fasses ça, que tu prennes des efforts drastiques pour te débarrasser de ton péché, que tu finisses par te ramasser dans la géhenne, dans l'enfer éternel. Quelque part, c'est des avertissements qui sont sévères. On a Romains 1, versets 18 à 32. On l'a regardé un petit peu tantôt. Puis c'est surtout les versets 28 où 28 quand Dieu dit comme ils ne se sont point souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Quelque part, quand l'homme s'éloigne de Dieu, moi je me souviens des années 50, je suis au moins en 46, donc les années 50, début des années 50, comment c'était la sexualité de cette époque-là? Ça fait quand même pas si longtemps que ça, là. Et ça l'a dégringolé, dérapé à un rythme presque incroyable. On est rendu là, là. C'est vrai, moi, je peux vous dire une chose, je suis assez vieux pour me souvenir de ça, que s'il y aurait eu des parades homosexuelles à la fin des années 50, il se serait fait littéralement sacrer des volets. Et maintenant, aujourd'hui, non seulement il utilise même le mot fier, ils sont fiers de leur péché, de les exposer publiquement et de chercher à en entraîner d'autres à pratiquer le même péché. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ça ressemble-tu à la société de nos jours, ça? Des gens qui ne se soucient pas de connaître Dieu? Mais regardez bien, c'est pas juste ça dit bien, c'est un jugement divin. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses étant remplies de toute espèce d'injustice, de méchanceté. Regardez les péchés, comment ils sont tous reliés, hein? L'injustice, la méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapportant. On voit que quand Dieu abandonne les gens, à leur sens réprouvé, tous ces péchés-là se multiplient. Médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents. Ça ressemble-tu à ce qu'on vit autour de nous aujourd'hui? Dépourvu d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, on pourrait dire, peut-être ces gens-là ne savent pas que Dieu, ça dit bien, Dieu dit qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils les approuvent ceux qui les font. C'est comme un mouvement qu'ils cherchent à entraîner. Un grand avertissement dans les Épîtres. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est drôle parce que quand on lit ce verset-là, il me semble que c'est clair comme de l'eau de roche. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui se prétendent chrétiens, qui pensent qu'ils sont capables de continuer à vivre leur vie chrétienne tout en pratiquant leur vice. C'est quand ça dit « ne vous abusez point », qu'est-ce que vous pensez que ces gens-là font? Ils s'abusent eux-mêmes en croyant que c'est possible d'être chrétien puis de vivre une vie sur le long terme là, dans ça. Or, c'est là, ici, il est en train de dire « ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. » Or, c'est là ce qu'étaient quelques-uns d'entre vous. Il est en train de dire que chez les chrétiens de l'époque, ils étaient très conscients que parmi eux, tous les péchés dont on a mentionné, là, eux aussi ont déjà été comme ça. Ils ont déjà été comme ça. Ils ne sont plus. Donc, ça implique qu'ils ont abandonné cette forme de péché-là. Mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. C'est intéressant aussi la version Lausanne, parce que les mots choisis pour traduire sont un peu différents. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous égarez point. L'autre, il disait abusé, égaré. On sait qu'on dit que quelqu'un il s'est perdu dans le bois, il s'est égaré, il ne sait plus ce qui est rendu. Ne vous égarez point, ni fornicateur, ni idolâtre, ni adultère, ni efféminé, ni pédéraste n'hériteront du royaume de Dieu. La Bible, bien entendu, parle ici des personnes qui s'enracinent volontairement dans ces péchés-là. Il peut arriver que des chrétiens ou des chrétiennes aient des attirances homosexuelles ou adultères, et qu'avec l'aide du Seigneur, ils ou elles aient de durs combats spirituels pour vaincre ces péchés. Mais la victoire est promise à ceux qui persévéreront dans cette lutte. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un a déjà pratiqué ces péchés dans son passé, quand il devient au Seigneur, c'est fini, il n'a plus de désir, c'est fini. Non, la Bible dit que tu veux les avoir encore, parce que ta chair est encore en toi, tu veux les avoir encore, mais la Bible te dit que tu peux être vainqueur. Puis tu peux arrêter, puis tu peux être vainqueur. Alors ça, c'est vraiment à tenir compte, parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un va continuer à vivre la vie qu'il menait auparavant, et qu'il va penser qu'il va aller au ciel pareil, parce qu'il se méprend. Ça le dit, il s'abuse, il s'égare. Éphésiens chapitre 5, versets 3 à 7. Que, voyez-vous ici, non seulement il parle du geste de la fornication, du geste de l'impureté, tout ça, mais il parle même du langage. Éphésiens 5, versets 3 à 7. Que ni la fornication, ni aucune impureté, ni l'avarice ne soient même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Autrement dit, quand on devient chrétien, on sera supposé de surveiller même notre langage dans ces affaires-là. Puis vous remarquez que des fois, on se laisse aller un petit peu ce côté-là. On envoie des petites affaires, des petites grivoises, comme on dit. Mais la Bible dit qu'on ne devrait pas avoir ça. Verset 4, « Ni aucune parole déshonnête, ni bouffonnerie, ni plaisanterie qui sont des choses malséantes, mais qu'on y entende plutôt des actions de grâce. » Ça parle, ces versets-là. On est porté à ça, les plaisanteries. On est là, oh, tout ça bien drôle. Ça, c'est des relents de notre vieille nature. Comme chrétien, quand on se rend compte qu'on tombe dans ce péché-là, on devrait demander au Seigneur, « Donne-moi la force que j'arrête ces choses-là. Maîtrise ma langue. Mets un frein à ma langue. » Car verset 5, « Car vous savez... ceci, qu'aucun fornicateur ou impudique ou avare, qui est un idolâtre. » Il est en train de dire qu'un fornicateur et un impudique, c'est un idolâtre. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Ni n'a de part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. N'ayez donc point de part avec eux. Ça, c'est clair? Colossiens, chapitre 3, va dire verset 5 à 7. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Jude, chapitre 1, verset 5 à 7. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont point gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impureté et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Quelque part, là, si on prend tous les versets qui parlent de sexualité, avec tous les vices qu'on a mentionnés depuis le début, faut pas que quelqu'un s'imagine qu'il devient chrétien, ben, je crois au Seigneur Jésus, puis il a payé pour mes péchés, puis qu'il n'y a pas de repentance qui accompagne ça. La foi et la repentance, c'est deux doctrines jumelles. Ils vont ensemble. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Si tu as un et tu n'as pas l'autre, c'est que ta foi est probablement pas vraie. Parce que la foi et la repentance, c'est deux choses qui vont ensemble, sont collées ensemble. Tu ne peux pas dire « je suis chrétien » puis « je continue à mener ma vie comme je menais avant ». L'adultère, l'homosexualité, le lesbianisme, etc., de tout ce qu'on a mentionné depuis le début. Trois applications. Soyons reconnaissants envers le Seigneur qui nous a donné la sexualité pour bénir la vie de couple et qui permet la perpétuation de la race par la procréation. Le Seigneur permet le plaisir sexuel à condition qu'il s'exerce dans le cadre exclusif du mariage entre un homme et une femme. Pas compliqué, ça. Mais pourtant, aujourd'hui, à part que les chrétiens, puis même encore, dépendamment du milieu chrétien dans lequel tu te trouves, c'est mis en doute. Deuxième application. Remercions Dieu de nous avoir fourni une boussole sûre pour nous orienter nos pensées et nos comportements dans le domaine sexuel. On sait c'est quoi une boussole, hein? Tu t'en vas dans le bois, tu es perdu, tu ne sais plus dans quelle direction tu es rendu. Une boussole, ça t'indique le nord, ça t'indique la direction. Alors, nous, on a une boussole pour le domaine sexuel. C'est la Bible. Puis si on ne se laisse pas conduire par les Saintes Écritures dans le domaine de l'exercice et nos comportements sexuels, bien sûr, on fait une erreur très, très, très grave. Ne nous laissons diriger que par les Saintes Écritures. Troisième application. Rappelons-nous que le Seigneur peut pardonner tous les péchés de cette nature. Tenons cependant compte des avertissements de sa voix puissante. Matthieu 1, 21. Ici, il parle de la Vierge, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Autrement dit, ces péchés-là, ce pas des péchés impardonnables, c'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Le Dieu peut les pardonner parce qu'il est le sauveur, mais quand on dit pardonner, ça implique que la personne a reçu la foi. Tu crois qu'il y a quelqu'un qui a payé pour tes péchés à ta place, puis t'arrêtes de les pratiquer, c'est ça qui est la repentance. Si la foi est juste intellectuelle, puis juste au niveau de la tête, et que l'exercice de ces péchés-là s'exerce d'une façon continue dans la vie du chrétien, bien comme on a vu tantôt, ne vous y méprenez pas, ne vous égarez pas, puis ne vous séduisez pas vous-même. C'est là qu'on est rendu. Je n'ai entendu personnellement de mes propres oreilles des chrétiens dire qu'ils continuaient leur vie comme ils venaient avant, puis qu'ils croient qu'ils sont encore, qu'ils s'en vont encore au ciel, alors que la Bible dit le contraire. Matthieu, chapitre 12, verset 31. Seigneur lui-même, Jésus qui parle, il dit, « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. » Alors, adorons, louons et exaltons notre grand Dieu pour ses grâces. Amen. Amen.